Depuis plusieurs semaines, les images qui nous parviennent d'El Facher sont insoutenables. Alors que l'actualité mondiale est souvent monopolisée par d'autres conflits dans le monde, un autre drame, lui, reste largement dans l'ombre, alimenté par la convoitise de tous ceux qui en tirent profit. Trop de morts, d'exactions, trop de faim généralisée et un silence médiatique lourd, pesant depuis de nombreuses années. Vous avez forcément vu les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux à l'après la prise de la ville d'El Facher. Des rues désertes, des familles fuyant sous les tirs, des quartiers transformés en ruines. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Expresso de la politique. Depuis plus de 2 ans, le Soudan traverse la plus grave crise humanitaire au monde. Un conflit qui déchire le pays entre 2 généraux, fait des millions de déplacés et transforme des villes entières en zones de guerre. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui se joue à El Facher et dans le Darfour, et ce que peut faire l'ONU pour répondre à cette tragédie sans fin. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, pour décrypter ce conflit et ce que ces images nous révèlent, je suis avec Rachel, étudiante en licence de sciences politiques comme moi. Salut Rachel.
Salut Alice.
Comment ça va ce soir?
Ça va très bien, et toi?
Ok, bah ça va super. En tout cas, je suis très contente d'être avec toi.
De même.
Et aujourd'hui, on va parler d'El Facher pour commencer. Et est-ce que tu pourrais nous situer un petit peu où ça se trouve et pourquoi on parle du Soudan et un petit peu l'histoire de contextualiser?
Bien sûr, bien sûr. Alors, le Soudan, c'est le plus grand pays d'Afrique avec une superficie de 1,8 million de kilomètres. Il est placé au nord-est de l'Afrique, à la frontière sud de l'Égypte et à l'est du Tchad. Il compte environ 50 millions d'habitants. Pour ce qui est de son histoire, après avoir été sous gouvernance égyptienne puis britannique, le Royaume-Uni déclare l'indépendance du Soudan le 1er janvier 1956. Cette indépendance est marquée par un renouveau identitaire et politique, mais cela ne rime pas pourtant avec une stabilité. Au contraire, les coups d'État s'enchaînent jusque l'année 89, où a lieu un énième coup d'État qui aura encore des conséquences à l'heure actuelle.
Et c'est ça qui va nous intéresser principalement aujourd'hui. En 1989, Omar el-Béchir prend le pouvoir au Soudan par un coup d'État militaire. Et dès son arrivée aux commandes, il met en place un régime répressif. Il muselle tous les mouvements étudiants, la presse, les syndicats et même les partis d'opposition. Mais surtout, il s'appuie sur le Front islamique national. Oui, vous avez bien entendu, dirigé par Hassan al-Tourabi, pour pouvoir contrôler, évidemment, tous les leviers de l'État. Mais il faut le dire clairement, le régime d'El-Bachir n'a tenu que grâce à l'engagement massif des islamistes dans l'appareil d'État, qui ont pu structurer l'intégralité du système politique, judiciaire et sécuritaire sur près de 30 ans.
Oui Alice, exactement. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a une dimension identitaire très importante de l'histoire du pays qui continue encore aujourd'hui d'être un enjeu majeur. En fait, quand Omar el-Béchir prend le pouvoir par son coup d'État, il existe déjà des tensions. Le pouvoir est tenu par ce qu'on pourrait appeler les élites du Nord. Ces populations sont arabes, se considèrent arabes, et elles sont issues de la vallée du Nil, donc principalement autour de la ville de Khartoum, qui est la capitale du Soudan, qui se situe au nord du pays. C'est une population ethnique qui domine l'administration, le pouvoir politique. À son arrivée, Omar el-Béchir renforce ce régime de hiérarchisation des populations. Il s'appuie sur un discours national islamiste et a une vision d'un Soudan unifié sous une identité arabe et musulmane. Le problème, c'est que les populations non arabes qui se situent majoritairement dans les périphéries du sud, à l'est et à l'ouest, sont marginalisées, exclues du pouvoir et des ressources. Cette domination ethnopolitique, qui est déjà ancienne, va nourrir des frustrations énormes.
Et c'est particulièrement le cas, Rachel, au Darfour, dans l'ouest du pays, où la situation ethnique est la plus compliquée parce que la situation devient explosive. La région souffre de décennies de marginalisation, aggravées par la désertification et la compétition pour les terres entre groupes à la fois arabes et non-arabes. En février 2003, un premier mouvement rebelle, alors appelé Front de libération du Darfour, attaque une position militaire près de Golo. Il s'élargit, recrute des combattants Massali et Sagwava, des populations musulmanes non-arabes, et devient l'Armée de libération du Soudan, la SLA. Quelques mois plus tard, un autre groupe apparaît, le Mouvement pour la justice et l'égalité, JUM, dirigée par Kali Ibrahim. Les deux sont soutenus par le Tchad et dénoncent cette discrimination organisée par Khartoum. Face à cette insurrection, le régime réagit avec une brutalité extrême, disproportionnée. Au lieu de se reposer uniquement sur l'armée, Khartoum décide d'armer et d'encadrer des milices arabes locales. Elles s'appellent les Janjaouis. Ce terme désigne des milices et des miliciens afro-arabes se revendiquant comme arabes, utilisés par le pouvoir pour terroriser les populations non-arabes du Darfour. C'est au sein de ces milices qu'émerge un homme qui jouera un rôle central dans le conflit actuel, Mohamed Hamdan Dogolo, plus connu sous le nom de Emeti. Entre 2003 et 2004, les violences atteignent un niveau effroyable. Villages incendiés, viols systématiques, exécutions sommaires, destruction des puits et par la suite, une famine organisée. À la fin de 2004, l'ONU estime qu'environ 300 000 personnes ont été tuées et 2,5 millions déplacées.
Effectivement, et malgré l'ampleur du drame, la communauté internationale reste passive. Les négociations tentées par l'ONU échouent, la mission de l'Union africaine est rapidement dépassée et les cessez-le-feu sont violés quasi immédiatement. En mars 2007, la Cour pénale internationale qualifiera ces crimes de génocide. Cet épisode illustre aussi l'incapacité du système international à agir efficacement.
Et pendant ce temps, Rachel, un autre processus politique majeur avance. La fin de la longue guerre civile entre le Nord et le Sud. Cela aboutit le 9 janvier 2005 à la signature de l'accord de paix global. 6 ans de transition sont prévus, ainsi qu'un référendum d'autodétermination pour le Sud-Soudan. En janvier 2011, ce référendum a lieu. Près de 99% des électeurs votent pour l'indépendance. Ça paraît fou. Le Soudan du Sud devient officiellement indépendant en juillet 2011, entraînant une reconfiguration totale et profonde du pays. Mais ce qui entraîne aussi la perte d'une grande partie des ressources pétrolières par Khartoum. Mais cette scission, comme on va le voir, n'a pas mis fin aux fractures internes. Le nord du pays reste marqué par des rivalités politiques, militaires et ethniques, qui expliquent pourquoi Emeti et les forces de soutien rapide continuent d'exercer une influence considérable. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec toi.
En effet, Alice, malgré l'apaisement qu'a pu procurer la scission entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord, les tensions et les rivalités n'ont absolument pas cessé. Ce qu'il se passe, c'est que depuis cette scission, le Soudan du Nord s'enfonce dans une crise. Il est fragilisé par la perte du pétrole qui est désormais détenu par le Soudan du Sud. En 2018, face aux pénuries de pétrole, la corruption et notamment une hausse du prix du pain, des émeutes éclatent dans les villes du centre du pays. C'est le début de ce qu'on appellera le printemps de Khartoum. Khartoum, comme on l'a dit précédemment, c'est la capitale du Soudan. C'est une ville vaste mais découpée en 3 morceaux. Au nord, c'est Bari, une ville industrielle tournée vers l'Égypte et la mer Rouge. À l'ouest, Omdurman, c'est la capitale culturelle et historique. Enfin, au sud, on a Khartoum à proprement parler. On y trouve le palais résidentiel, l'aéroport et la principale université du pays. Les manifestations naissent dans une vingtaine de villes de province et gagnent Khartoum. Les contestations se structurent ensuite grâce et autour de cette jeunesse éduquée. Les manifestations sont courantes devant le quartier général de l'armée. Les Soudanais manifestent dans une vingtaine de villes du pays et en appellent à la fin du régime d'Omar al-Bashir. Ils veulent la liberté, la fin de l'oppression et ils en appellent aussi aux militaires. Les contestations prennent une telle ampleur qu'Omar al-Bashir est contraint de quitter son poste et de mettre fin au régime. Un gouvernement civil de transition est alors mis en place. On pourrait croire ici que l'on assiste à une transition vers un régime plus démocratique, mais ce fut un espoir de courte durée.
C'est exactement ça, Rachel, parce que l'année 2021, elle marque un nouveau basculement pour le Soudan. Après 2 ans d'une transition fragile, censée mener le pays vers un gouvernement civil, tout s'effondre le 25 octobre 2021. Ce jour-là, l'armée, menée par le général Abdel Fattah al-Bourhan, renverse les autorités civiles de transition. Et détail important à noter, ce coup d'État n'est pas seulement l'œuvre de l'armée régulière, il est co-organisé avec Mohamed Hamdan Dogolo, dit Emeti. Oui, le chef des forces de soutien rapide, héritier des milices Janjaouides du Darfour. Al-Bourhan et Emeti apparaissent alors comme un bloc militaire uni, déterminé à reprendre la main sur le pays. Leur message, officiel, clair, est de protéger la transition. Mais très vite, il devient clair, évident, qu'ils consolident surtout leur propre pouvoir, la mainmise. Les manifestations reprennent, massives, réprimées. Les civils comprennent que leurs espoirs démocratiques sont suspendus. Ce coup d'État de 2021, présenté comme un ajustement, scelle en réalité l'alliance entre ces deux hommes forts, puissants, avides d'avoir toujours plus de pouvoir. Alliance fragile, ambiguë et qui va exploser moins de 2 ans plus tard, en 2023.
Exactement, depuis avril 2023, la guerre entre l'armée soudanaise et la milice du général Emeti a forcé le déplacement de plus de 13 millions de personnes et a plongé la moitié de la population dans l'insécurité alimentaire. Plusieurs puissances mondiales cherchent à maintenir dans une situation ni de guerre ni de paix, afin de mieux pouvoir exploiter ses ressources. Après 18 mois d'un siège qui a affamé près de 200 000 civils piégés à l'intérieur d'une ville qui en abritait plus de 1,5 million avant la guerre, après des centaines de bombardements meurtriers menés par les forces de soutien rapide, la catastrophe d'El Fasher était prévisible. Depuis le début, en avril 2023, du conflit intérieur qui oppose les forces de soutien rapide aux forces armées soudanaises, c'est plus d'un tiers du pays qui est tombé aux mains de la force paramilitaire. Ce conflit a fait près de 150 000 morts et a déplacé près de 12 à 13 millions de personnes, soit près d'un quart de sa population, devenant ainsi la plus grande crise humanitaire du monde selon l'ONU. Après la chute d'El Fasher, tombée le 26 octobre aux mains des paramilitaires des forces de soutien rapide, dirigées par Emeti, les tueries se poursuivent dans la capitale de l'État du Darfour du Nord. Le bilan de ce huis clos sanglant est estimé à plusieurs milliers de morts civiles. Les images qui nous parviennent témoignent de massacres, tortures et exécutions de civils, dans une région déjà rongée par la famine.
Avant de se quitter, je crois qu'il y a une chose essentielle à retenir de tout ce que l'on a pu dire. Le Soudan n'est pas seulement un conflit lointain, banal. C'est l'histoire d'un peuple, pris au piège entre deux appareils militaires, d'un pays qui s'effondre sous nos yeux dans un silence assourdissant, accablant. Depuis plus de 2 ans, ce sont des millions de vies brisées, des familles dispersées, des villes entières rayées de la carte. Et pourtant, la tension mondiale reste ailleurs. Le manque d'images, peut-être aussi le manque de relais médiatiques, mais surtout le manque de pression politique. Et tout cela contribue à rendre cette tragédie presque invisible. Mais invisible ne veut pas dire inexistante.
Et si l'on a voulu consacrer cette émission au Soudan aujourd'hui, c'est justement pour rompre un peu cette invisibilité. Pour rappeler que derrière les statistiques, les déplacés, les morts, les famines, il y a des êtres humains, des voix étouffées, des vies suspendues. Alors que les combats se poursuivent autour d'El Fasher, alors que les violations documentées s'accumulent, l'enjeu n'est plus seulement de comprendre ce conflit, mais de ne pas détourner les yeux, parce qu'un silence qui dure trop longtemps devient une forme de complicité.
Merci à toi Rachel pour cet échange, et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que cette discussion vous aura donné envie d'aller plus loin, de vous informer, d'en parler autour de vous, parce qu'on le croit ici, que la première étape, c'est agir, c'est de regarder en face ce qui se passe. Merci Rachel.
Merci Alice.
C'était l'Expresso de la politique, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.